Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah.
Salut Damien.
Nous accueillons dans ce studio une immense star, une chanteuse dont le nom est associé depuis maintenant 47 ans, oui je dis bien 47 ans, à la mention suivante, la dernière française ayant remporté le concours Eurovision. Bonjour Marie-Myriam.
Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Deux.
Soyez la bienvenue sur ce plateau.
Merci.
Est-ce que vous n'en avez pas assez qu'on vous qualifie systématiquement de dernière française ayant remporté l'Eurovision? C'est vrai que chaque année on parle de vous. Hein.
Oui, chaque année on parle de moi, donc ça me fait très plaisir. Maintenant, qu'on me qualifie de dernière, mais je suis la dernière, donc je peux pas non plus. J'aimerais bien que ça change. Par contre, voilà.
Est-ce que cette étiquette vous a déjà un peu trop collé à la peau?
Enfin, non. Enfin, en vérité, j'ai vécu une belle aventure. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et puis l'Eurovision d'avant n'est pas l'Eurovision d'aujourd'hui. J'aurais aimé faire l'Eurovision d'aujourd'hui.
Ouais, c'est
elle
vrai.
Est bien. Ah oui, avec les Eurofans, elle est très différente. Il y a une ambiance extraordinaire. Ils accueillent tout le monde. Chaleureusement, enfin voilà, c'était différent.
Mais pour les Eurofans, c'est vrai que vous êtes un peu la déesse française de l'Eurovision. Est-ce que vous aimeriez reparticiper une deuxième fois? Bah, la couille, c'est vrai qu'on est vraiment là-dedans. Vous êtes un modèle vers lequel on aimerait tous tendre, c'est vrai, puisqu'on n'a pas remporté
Moi,
l'Eurovision.
J'aimerais vraiment que la France gagne. Et je crois, je sais que, bon, chaque année, je me répète parce que j'ai envie d'y croire, mais là peut-être que Slimane ça va être différent, ça va être encore mieux, parce que je suis fan de sa voix, de ses chansons bien avant qu'il chante.
Elle est très belle sa chanson, je trouve, pour l'Eurovision.
Pour l'Eurovision, mais moi j'étais fan déjà avant.
Ouais.
Donc je me dis que voilà, qu'on a peut-être plus de chance.
Mais c'est vrai que je le disais sur le ton de la blague, mais est-ce que vous pourriez vraiment reparticiper une deuxième fois à l'Eurovision en se disant que l'histoire serait belle, que vous gagniez une deuxième fois cette compétition européenne?
Non, je pense pas gagner une deuxième fois, mais oui, si j'avais voulu, oui, j'aurais pu.
Vous auriez pu. Vous la reproposez ou pas?
Oui et non, mais en fait, j'arrête le truc en disant non, je peux pas y retourner.
C'est vrai.
Non.
Vous êtes superstitieuse, c'est ça?
Non, je trouve que c'est bien. C'était il y a 47 ans, ouais. Vous imaginez. Là, dans une semaine, le 8 mai, j'ai 67 ans. Donc, je me sens pas d'aller défendre le truc.
Vous êtes en forme?
Ah oui, merci.
Et d'ailleurs, la prochaine finale de l'Eurovision donc, se tiendra en Suède, à Malmö. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que
Malmö?
Chaque année... Malmö, oui. Pardon,
Malmö.
Ouais, bah oui, la prononciation.
Sarah, elle n'a pas fait suédois LV12, alors.
Moi non plus, mais je suis allée à Malmö, c'est pour ça que je dis ça.
Donc à Malmö, est-ce que vous regarderez l'événement?
Mais bien sûr.
Chaque année, vous êtes devant?
Je regarde chaque année, quand je ne peux pas, j'enregistre et je regarde après.
Et cette année, vous l'avez rappelé, c'est Slimane qui va porter fièrement les couleurs de notre drapeau tricolore.
Oui.
Est-ce que vous pensez sincèrement que cette année, on peut vraiment remporter ce concours?
Alors,
vous dites chaque année peut-être on peut le remporter, mais là, est-ce que c'est notre heure?
J'espère que c'est notre heure. En tout cas, ouais. Le truc, c'est que, pour dire la vérité, il faut entendre toutes les chansons. Pour pouvoir comparer, pour pouvoir donner...
Il est dans le top 5, hein, le favori, oui. C'est le Suisse, le grand favori.
J'ai même pas entendu, vous voyez.
Qui se déclare comme non-binaire.
Ah oui, mais ça c'est vrai que c'est intéressant comme caractéristique, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la chanson, est-ce que vous pensez qu'il faut raconter une histoire? C'est-à-dire qu'à une époque, peut-être que l'Eurovision était uniquement basée sur des critères très musicaux. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut une personnalité, il faut quelqu'un qui fasse vendre?
Je sais pas, moi j'ai raconté une histoire avec l'oiseau et l'enfant. C'est une histoire d'amour et de paix pour le monde. Noir, la misère, les hommes et la guerre. C'est toujours d'actualité, c'est dans le texte.
Ouais.
Et oui, il y avait mon histoire. C'était la veille de mes 20 ans. Il y avait tout ce truc-là. Puis il y avait mes 8 premières mesures a cappella. Je pense que c'est ce qui a marqué... C'est ce qui a marqué les gens.
C'est vrai. Eh ben, on va revenir sur votre prestation à l'Eurovision 1977. On va faire un petit voyage dans le temps dans cette émission. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence les infos médias avec Claire Chazal, émue aux larmes dans Quelle époque ?
Et oui, c'était samedi soir sur France 2. La journaliste a eu du mal à cacher son émotion en revoyant les images de son dernier JT. C'était en septembre 2015. Et surtout, son discours d'adieu, hein, qui rendait hommage à la rédaction de TF1. C'était 25 ans de vie, dit-elle. C'est quand même considérable, a-t-elle encore expliqué à Léa Salamé, hein, la présentatrice de Quelle époque. Elle a révélé aussi qu'elle ne voulait pas fondre en larmes le jour de son départ. J'avais écrit ce texte et je l'avais répété plusieurs fois pour canaliser mon émotion. Ce n'était pas le lieu pour pleurer, a-t-elle encore déclaré.
Et vous, Marie-Myriam, lorsque vous revisionnez votre prestation à Londres, vous pleurez.
Ah
c'est
oui,
vrai.
Je pleure, moi.
Toujours, pourquoi?
Ah non, non, je pleure pas de me voir, je pleure à l'Eurovision.
Ah, vous oui. pleurez
quand
à l'Eurovision.
Quand on m'annonce que j'ai gagné.
Ah oui, à ce moment-là, vous fondez.
On était dans notre green room, et en fait, comme je suis passée la dernière, tous les candidats étaient devant moi.
Ah oui.
Ils se sont tous levés, retournés, ils m'ont applaudi. Et donc, j'ai eu comme un truc de waouh, c'est pas vrai quoi. Et puis les larmes sont montées, et puis voilà.
Surtout que c'était totalement inattendu cette victoire, parce qu'elle s'est faite dans des conditions assez particulières. Vous avez même dû accélérer le rythme de votre chanson pour pouvoir tenir les 3 minutes imparties. Parce
oui,
que votre
exactement.
Chanson, je crois, faisait 3 minutes et 8 secondes, quelque
8
chose
secondes,
comme ça.
8 secondes, oui, c'est ça.
Voilà, vous avez dû chanter le plus vite possible.
Alors, notre chef d'orchestre, Raymond Denez, a dit mais il n'y a pas de problème, je vais accélérer, la chanson fera 3 minutes, parce que. Si on avait gagné avec 3 minutes 8 secondes, on aurait pu être recalé,
disqualifié.
Voilà, on pouvait ne pas gagner. Et puis on n'avait pas de salle de conférence pour les journalistes. Et puis, enfin, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas. Et puis à la fin, j'ai toujours dit, je disais à mon père qui était venu avec moi, j'ai dit, c'est papa, c'est l'histoire de Cendrillon, là, ce que je viens de vivre. Parce qu'en fait, on est rentré en Rolls-Royce.
Ah oui.
Je me baladais en bus avec les musiciens, aller-retour avec mes choristes, avec mes producteurs, on se baladait en bus. Et à la fin, on est rentré en Rolls.
C'est drôle.
Donc voilà.
Et cette victoire à l'Eurovision 1977, vous y pensez tous les matins lorsque vous vous levez ?
Oh non,
non,
bien sûr que non.
Mais tous les jours, on vous le rappelle.
Non,
de
mais
toute
par
façon.
Contre, ce que je trouve adorable, c'est de recevoir sur le Messenger de Marie-Myriam Facebook, je reçois des vidéos d'enfants.
Ouais.
Qui chante l'oiseau et l'enfant.
Ah oui, ça, c'est
et je me dis,
dommage.
C'est quand même incroyable, 47 ans après, que la chanson,
ouais.
elle est... Mais la musique est magnifique, musique de Jean-Paul Carat.
Ouais,
et exactement. Le texte sublime, j'adore ce texte de Joe Grassi.
Il est très beau, effectivement. On poursuit ces infos médias avec Laurent Ruquier, définitivement fâché avec Thierry Ardisson.
Oui, il m'a mis un coup de poignard dans le dos, c'est ce qu'il a déclaré à l'égard de l'homme en noir ce week-end dans la tribune dimanche. En fait, les deux hommes sont fâchés depuis l'échec de l'émission Hier, Aujourd'hui, Demain, présentée par Laurent Ruquier et produite par Thierry Ardisson. Après l'émission, il a été grotesque, dit Ruquier aujourd'hui, en disant que les mauvaises audiences étaient de ma faute, afin de préserver ses intérêts futurs au sein de France Télévisions. Voilà ce qu'a dit Laurent Ruquier ce week-end. Ce n'est pas quelqu'un de fiable, a-t-il ajouté.
Ça me pique au niveau de l'omoplate droit. Sarah, vous n'avez pas essayé de me mettre un coup de poignard pendant le week-end, non ?
Non, mais
non,
jamais.
Bah, ça va,
jamais
alors.
De la vie.
Et vous, Marie-Myriam, vous avez déjà été fâchée avec quelqu'un au point de ne jamais pouvoir pardonner ?
Oui, mais alors ça se passe très facilement. Je ne vois plus la personne.
Et ah oui, vous l'arrivez de votre
voilà,
vie, quoi.
Et fini.
Alors c'est vrai qu'il y a des intervieweurs comme Thierry Ardisson, parfois aussi Laurent Ruquier, qui ont été très décriés pour des interviews qu'ils ont pu faire par le passé.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà vécu un mauvais moment lors d'une émission ?
Pardon, excusez-moi.
Oh, il n'y a pas de souci.
À tes souhaits.
Alors ça, c'est le pollen.
À tes souhaits, pardon. Ah.
Moi aussi, je suis allergique.
Ah, ça, c'est le pollen. Ça, c'est le muguet, hein. C'est le premier.
Non, Laurent Ruquier, mon Dieu, j'adore cet homme. Il est,
ouais.
Pour moi, c'est quelqu'un de... Pour les artistes qu'il aime, il est fidèle, il est... Voilà, c'est quelqu'un de formidable dans la vie, Laurent Ruquier.
Ouais.
Donc, je ne peux pas dire ce qui s'est passé entre les deux.
Oui.
J'ai tendance peut-être à croire Laurent, j'en sais rien.
Oui, parce que vous le connaissez mieux. Mais
parce
vous...
que je le connais mieux.
Vous, vous n'avez jamais vécu de mauvais moments en plateau
Oh, même si j'ai vécu à un moment des moments, comment on va dire, c'est pas des moments de colère, c'est voilà, c'est être déçu d'un truc qu'on me fait faire un machin, et que c'était pas ce que j'avais envie de faire.
Ah oui.
Mais bon, il n'y a pas de quoi être en colère, quoi, non, je ne suis pas en colère du tout. Moi, je suis quelqu'un de très... Ouf.
Vous avez l'air d'être zen et d'être sage, en tout cas, c'est ça.
Ouais.
Allez, on termine ces infos médias avec Patrick Bruel qui se confie dans 50 minutes Inside sur sa relation aux femmes.
Et oui, ça a dû me monter à la tête, c'est ce qu'il a confié au micro d'Isabelle Iturburu sur TF1. Le chanteur de 64 ans est revenu sur son public majoritairement féminin. Et cette Bruel mania qu'on a connue dans les années 90, on ne peut pas dire qu'on sorte indemne d'une telle déflagration, dit-il. mais je crois, et mon entourage peut en témoigner, que j'ai gardé les pieds sur terre et surtout j'ai été bien entourée, c'est ce qu'il assure, même s'il admet que ça a été plus compliqué de trouver, de rencontrer quelqu'un, sa femme, quand on s'appelle Patrick Bruel.
Alors les téléspectateurs le savent, vous avez partagé une partie de votre vie avec Patrick Sébastien il y a
deux ans,
Patrick. Voilà,
une petite partie de votre vie alors.
Oui. Non mais on est amis. Hein.
Vous êtes restés amis, c'était la question que je voulais vous poser.
On est amis.
Oui, parce que la rupture a été quand même difficile. Hein. Vous l'avez quitté à cause de ses infidélités.
Oui.
Et lui, on apprendra plus tard qu'il voulait se flinguer.
C'est ce qu'il disait, dans son livre.
Il en a parlé dans son livre.
En fait, il voulait pas se flinguer, mais il a pris de l'alcool et des médicaments. Et il a eu droit malheureusement à un lavage d'estomac, ce qui était vraiment un moment très difficile pour lui.
Ouais.
Mais voilà, les années sont passées. Il était avec Nana, qui est une femme extraordinaire, qui l'a soutenue, qui l'a vraiment, voilà. Et puis, on est devenus amis après. Il était ami avec Michel, mon mari. Et puis voilà, on s'entend toujours bien, c'est ce qui compte.
Michel Elmosnino, c'est ça.
Michel qui est décédé, qui nous a quittés il y a 10 ans, oui.
Exactement. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de ne plus chanter, c'est ça?
Oui.
Et pour quelle raison? Parce que la musique était trop liée à lui, c'est ça?
Oui, la musique était liée à lui, évidemment. On travaillait ensemble pendant 35 ans, 24 heures sur 24 ensemble. Mais en fait, lorsqu'il est décédé, j'ai appelé, j'ai demandé à mes enfants, et moi-même, j'ai eu Danny Darcy, j'ai appelé pour annuler des concerts, et j'en ai oublié un. Ah. Et un qui était dans un casino dans l'est de la France, et donc je suis montée sur scène. C'est mon fils qui avait fait une école en Angleterre d'ingénieur du son, qui a pris la place de son père. Et puis j'ai commencé à chanter, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai éclaté en sanglots, que les gens au premier rang pleuraient. Je voyais que les premiers rangs, à cause des lumières. Et moi, je me disais, je vais jamais il n'y a aucun son qui sortait de ma voix.
Vous étiez complètement à fond.
Et je me disais, je vais jamais finir mon tour de chant, c'est pas possible, quoi. Je peux pas vivre ça. Et je ne sais comment j'ai fait pour réussir à terminer mon tour de chant. Et en sortant j'ai tout fait avec le sourire, tout est revenu doucement. Mais en sortant de là, j'ai dit à mon fils, pour l'instant, je vais m'arrêter là, ce sera le dernier, là, pour l'instant.
Pour l'instant, et ce...
Oui, parce que j'ai vécu un truc que je n'avais jamais vécu. Sur scène, pour moi, c'était le bonheur, c'était un partage, c'était un échange avec le public, c'était même que ce soit quelque chose de doux ou de joyeux, mais c'était quand même un échange. Et là, c'était des pleurs.
Ouais.
Les gens pleuraient, et moi aussi, c'était une horreur, quoi.
Là, vous tirez un trait définitif sur cette, carrière.
Je ne voudrais pas revivre ça, je voudrais pas revivre ça. Donc en fait, j'ai peur, je crois que j'ai peur de me retrouver sur scène et de whoop, et que ça remonte. Et alors, je ne peux pas arrêter.
Tout est une question de savoir si vous êtes parvenu à passer à autre chose, sans tourner la page, mais peut-être passer à autre chose.
Non, bien sûr. Et aujourd'hui, je peux parler du décès de Michel, que je ne pouvais même pas, je ne pouvais même pas parler de son décès il y a quelques années. Oui. Donc oui, bien sûr, on tourne la page, mais c'est ce truc sur scène que j'ai vécu qui m'a fait un traumatisme, vraiment.
Eh bien, en tout cas, en 1977, vous n'aviez pas de traumatisme à ce moment-là.
Non.
On peut vous l'assurer, parce qu'on a revu les images d'archives. Bon, 1977, c'était il y a 47 ans, on est en soustraction. Comment expliquez-vous que depuis 47 ans, aucun artiste français ne soit parvenu à s'imposer lors de ce concours de chant?
Si je pouvais l'expliquer, je l'aurais déjà dit.
Vous auriez donné
à toutes les chaînes qui organisent entre France 3 et France 2, je leur aurais déjà tout raconté. Mais non, je ne sais pas.
Il y a quelque chose, quand même.
C'est-à-dire, à mon époque, les pays du Nord de l'Europe votaient déjà entre eux.
Ouais.
Nous, c'est vrai qu'on avait le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, on avait les pays francophones.
Ouais.
Monaco.
Mais en fait, lorsque j'ai gagné, je pense que pour avoir plus de points que les autres, je pense qu'il y a quand même plus de pays qui doivent voter pour vous.
Absolument.
Moi, je me souviens d'un gagnant, je ne me souviens pas de son nom, mais qui jouait du violon. Je crois que c'est lui qui a eu le plus de points à l'Eurovision.
Oui, un Islandais, il semble.
Depuis qu'il y a 40 et quelques pays.
Oui.
Et en fait, il a été obligé d'avoir des points de plein de pays pour arriver à ce total de points, à ce score. C'était incroyable.
Ouais.
Mais donc, voilà, je ne sais pas. Parfois, c'est une histoire peut-être de sentiments. Parfois, est-ce que vous représentez l'image, la chanson que vous chantez, je sais pas dire quoi. Mais il y a une magie, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une magie.
Qui s'opère. Ouais. Et quel conseil vous donneriez à Slimane qui nous représente aujourd'hui pour le prochain concours ? Est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas, du lobbying auprès de l'organisation en amont ? Est-ce que...
Il en fait. Il fait les concerts autour comme... voilà.
Ouais. Il faut en faire, ça fait partie du job.
Oui, bien sûr. Et puis lui, il a commencé par un concours. Ouais. Donc on va dire c'est un concours aussi, ouais. mais je ne peux pas lui donner de conseils, je ne peux donner à personne, parce que finalement quand on est là-bas, on est tout seul, on a nos choristes, l'orchestre, enfin moi j'avais l'orchestre, c'est vrai qu'il n'y a plus d'orchestre, ouais. Alors moi j'avais mes choristes et l'orchestre derrière, ouais. Mais j'étais devant toute seule, et en fait c'est quoi ? C'est chanter. Moi, j'ai fermé les yeux, puis j'ai chanté, et j'ai chanté pour moi, quoi, quelque part. Et puis, je ne sais pas, mais je pense qu'il a tellement l'habitude d'être en concert, il a tellement l'habitude d'échanger que je pense pas qu'il ait du mal, vraiment.
Et c'est quoi une bonne chanson pour l'Eurovision ?
C'est une chanson qui se retient. Même si on comprend pas tout le texte, mais c'est en tout cas une mélodie déjà qui se retient. C'est important de chanter la mélodie. Un jour après l'Eurovision, j'étais en Allemagne, j'allais d'une ville à une autre, et en fait il y avait une grand-mère avec son petit-fils, et lui allemand évidemment. Il sifflait l'oiseau et l'enfant.
Ah oui.
Et la dame qui m'accompagnait m'a dit, tu vois Marie, ça c'est le succès. Il ne sait pas que tu es là, il ne savait pas que j'étais là, un peu plus loin, mais on l'entendait siffler l'oiseau et l'enfant.
Das Kind und das Mädchen, d'ailleurs, en allemand. Vous avez fait en allemand, vous l'avez fait en espagnol, vous l'avez fait en anglais, vous l'avez fait en combien de langues ?
En portugais, j'ai fait en cinq, six langues. Mais en allemand, c'était génial, parce que c'est la seule langue que je ne parlais pas, donc je l'ai... Et l'oiseau et l'enfant a énormément de textes, et donc je l'ai tout fait phonétique. Ah oui. Ich bin ein Kind mit glänzenden Augen, tout ça, c'est joli, mais c'est en phonétique.
Je suis un enfant avec des yeux brillants. En fait, voilà. C'est ça,
exactement. Il est bilingue.
Ma blondeur ne va pas vous trahir.
Alors on dit aussi que ça arrange bien France Télévisions que la France ne gagne pas, vrai, parce que l'année suivante, il faut organiser le concours et ça représente des millions d'euros.
Mais vous dites n'importe quoi.
Ah bon ? Et pourquoi ?
Comment la Serbie l'a organisé ? Comment les petits pays, l'Estonie, je ne sais plus lequel,
ils l'ont
organisé ?
Ils ont peut-être...
Attendez, c'est Yves Bigot quand même qui était directeur des divertissements à France 2 qui avait dit qu'à la fin des années 90, il avait interdiction de gagner l'Eurovision.
Non, il avait annulé même une Eurovision, monsieur Yves Bigot, mais c'est pas le sujet n'est pas là. On organise bien les Jeux Olympiques, ne me dites pas qu'on peut pas organiser l'Eurovision.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a rien à voir.
Après,
bien sûr que ça doit coûter quelque chose, mais je pense qu'il y a des publicités, je pense qu'il y a... Si des pays de l'Est l'ont organisé, bien plus petit que le nôtre, ne me dites pas que nous, on peut pas l'organiser. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué avec tous ces pays. Je sais pas si ça pourrait se faire à Paris, peut-être que ce serait bien d'aller à Nice ou je sais
pas. À Lyon, Marseille.
Voilà, exactement. Où il y a plus de place, etc.
Oui. Effectivement. Je vais vous soumettre quelques noms de participants français à l'Eurovision et en un adjectif, vous allez devoir me les qualifier, si vous le voulez bien évidemment. Bilal Hassani.
C'était pour la France.
Ah oui, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de Bilal Hassani alors ?
Ah, mais j'étais là, moi j'ai voté pour lui.
Ah, vous avez voté pour lui ?
J'étais dans le concours et j'aimais beaucoup Bilal Hassani, bien sûr.
Et oui, parce qu'il avait participé peut-être à Destination Eurovision, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, à un moment donné, il y avait des concours et j'étais ou dans le jury ou invité ou voilà.
Et qu'avez-vous pensé donc de
Barbara Pravi, pardon.
Alors, Barbara, poser des questions.
C'est mon truc, alors c'est pour vous dire que je ne suis pas bonne en Eurovision, je vais vous dire. On sortait du Covid. Et j'étais dans le jury et j'ai entendu la chanson de Barbara. Elle chante divinement bien, sa chanson est très belle.
Voilà.
Mais moi, je me suis dit, mais c'est trop triste après le Covid. Oui. C'est une chanson triste, elle est en noir, c'est piaf, enfin, avec les gestes et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai pas voté pour elle. J'ai pas voté, j'ai pas donné des points pour qu'elle remporte. Et ben, vous vous rendez compte,
elle est arrivée deuxième.
Ouais. Donc
meilleur
vraiment,
score qu'on a depuis.
Ah mais oui, hein. C'est le meilleur score.
Victoire.
Oui, oui. Non, il y a eu Amina aussi.
Amina.
Qui est arrivée et Joëlle Ursule qui est arrivée seconde aussi.
Exact. Ouais.
Mais n'empêche que jamais je n'aurais imaginé Barbara seconde quoi. Mm. Et ben voyez, comme quoi je me trompe.
Ça peut arriver.
Et Lazara, vous l'imaginiez en tête du classement ou pas?
Lazara, c'est plus compliqué. Je pense que Lazara, elle s'est empêchée toute seule de continuer. Je pense que ce geste qu'elle dit normal et naturel, que je trouve vulgaire...
Ce doigt d'honneur qu'elle a fait après les résultats.
Oui, et que la France ne mérite pas qu'on perde ou qu'on ne gagne pas, ou qu'on gagne, quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de
truc. Ça vous a choqué, ce geste ?
Moi, ça m'a choqué, vraiment. Et puis, et pourtant, elle a bien chanté, elle a une super voix... Et voilà quoi, mais ça. Vous savez, il y a plein de gens qui sont allés à l'Eurovision. Il y a Serge Lama, il y a Nana Mouskouri, il y a Julio Iglesias qui n'ont pas gagné. Ils sont allés à l'Eurovision et ils ont fait beaucoup de tubes. Beaucoup
France
de
Gale.
Tubes.
Ouais.
Non, elle a gagné, elle, pour le Luxembourg.
Ah oui, bon, allez.
Patricia Cass
Patricia Cass n'a pas gagné.
Elle n'a pas gagné, voilà. Bah, c'est bon alors.
Elle
a fait
des tubes.
Elle a fait, oui, exactement.
Elle était en Russie où elle chantait beaucoup à l'époque. Oui.
Non, vous êtes une encyclopédie de l'Eurovision pour nous.
Presque. Vous savez, à force d'être invité, à
vous
force
d'aller, experte.
Je finis par apprendre tout ça par cœur sans même m'en rendre compte.
D'ailleurs, c'est étonnant que France Télévisions ne vous contacte pas pour commenter la cérémonie, pour commenter la finale de l'Eurovision.
Ah, ça, j'aimerais bien, oui. On m'a demandé de donner les points, j'ai déjà fait.
Oui.
J'ai été présidente de jury, j'étais dans le jury, j'ai donné les points, mais j'aurais adoré, oui, aller commenter sur place. Oui, j'aurais bien aimé.
Est-ce que vous pensez que l'Eurovision doit aussi avoir un aspect un peu politique ? Parce que je vous pose cette question parce que Israël, vous savez, la candidate qui va concourir cette année à Malmö en Suède, elle a dû revoir le texte de sa chanson à deux reprises parce que c'était jugé beaucoup trop politique. Vous savez, ça faisait référence aux attentats du Hamas en octobre dernier. Elle a dû proposer une autre chanson. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est pas grave si le texte est un peu politique ?
Je sais pas si c'est grave ou pas grave, si le texte est un peu politique. Moi, je pense que c'est... Enfin, c'est vrai que les pays... il y a énormément... Plus de pays qu'à mon époque. Hein. Et en général, Abba parlait pas de politique.
Non.
Non.
Les Touching ne parlaient pas de politique. Enfin, tous ceux qui ont gagné avant moi... Ouais. Ça parlait d'amour, de joie, de trucs.
On doit rester sur ces valeurs-là, pas forcément des valeurs clivantes comme la politique.
Oui, c'est ça. Mais par contre, il y a eu des chansons je ne sais plus quel pays, je crois que c'est la Hongrie qui avait gagné avec l'histoire de la grand-mère qui faisait partie des déportés. Enfin,
oui.
Voilà.
Ah oui.
Donc, je sais qu'il y a, il y a ça aussi, mais ça peut être dans une peine.
Oui.
La première année où Israël a participé à l'Eurovision, c'était en 77. J'étais là.
Oui.
Et donc, évidemment, tout de suite, il y a eu des appels en disant oui, machin, etc. Je trouve ça nul parce que la musique, c'est vraiment le truc qui traverse les frontières, qui doit traverser les frontières, qui ne doit pas. La musique, c'est plutôt un échange de bonheur, quoi. C'est pas. On était tous obligés de passer par les sous-sols. Enfin, c'était vraiment très compliqué.
Ah oui.
Finalement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Mais bon, je ne sais pas. Moi, je pense que la musique aujourd'hui, ce devrait être un peu une chanson comme celle de Slimane, Mon Amour.
Une chanson d'amour.
Et moi, je pense que c'est plus facile.
Ouais. Alors, parfois, la musique est au cœur de polémiques politique, hein. C'est le cas d'Aya Nakamura, notre chanteuse française qui est pressentie pour participer, pour chanter même à la cérémonie d'ouverture des JO en juillet prochain. Selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée qu'elle
chante ? Je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée. Elle a un grand public et je comprends pas cette polémique, vous ne la comprenez pas.
Disons que les détracteurs lui reprochent de ne pas forcément mettre la langue de Molière en avant. En tout cas,
mais
pas sous son plus beau soleil.
C'est sa façon à elle d'écrire ses chansons et ça n'a rien à voir avec. Je sais pas. Moi, ça me pose aucun problème.
Ouais.
Évidemment,
vous aimez bien.
Il y a des chanteuses extraordinaires en France. On aurait pu leur demander d'y aller et ça aurait peut-être fait moins de bruit. Moi je suis ravie que ce soit elle.
On vous a pas sollicité pour chanter lors de la cérémonie des Jeux de Paris ?
Non.
En tant que dernière vainqueur de l'Eurovision en France ?
Non.
Vous accepteriez ou pas ?
D'aller chanter du Piaf, avec plaisir. Souvent sur scène, je terminais a cappella toute une chanson de Piaf. Donc,
Et puis ce serait votre grand retour sur scène.
Mais non.
On suggère l'idée.
On fait des films.
Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, si l'Élysée vous regarde, en tout cas, voilà. On peut communiquer votre courriel.
Merci.
Alors, vous avez aussi été reprise par les Kids United, ça c'était en 2016, L'Oiseau et l'Enfant.
Ça m'a fait trop plaisir.
Ah, ça vous a fait plaisir, c'est vrai.
Vraiment, c'était trop mignon.
Vous avez dû donner votre accord, j'imagine, aussi.
Non, pas du tout, mais pas besoin de mon accord. Borne, non ?
Bah pour les trois auteurs.
Ils n'ont rien changé au texte, à la mélodie. Ouais. C'est même pas à moi qu'il faut demander l'accord. C'était à l'auteur et au compositeur et aux éditeurs. Mais moi, j'étais ravie qu'ils chantent ma chanson, vraiment.
Et aujourd'hui, vous vivez de quoi, Marie-Myriam, sachant que vous ne chantez plus ? Est-ce que vous avez une autre activité, par ailleurs ?
Non, je me déplace, fais des émissions de télé, je suis présidente de jury pour des chanteurs, je suis dans un jury pour des élections de Miss.
Ah oui.
Voilà, je fais
Miss France,
pas Miss France, en région.
Ah oui.
Mais j'ai été jury pour Miss France, pour Mareva Galanter, je faisais partie du jury.
Vous faisiez partie du jury.
Ouais.
Et cette chanson d'ailleurs, L'oiseau et l'enfant, est-ce qu'elle a rapporté pendant des années ? Parce qu'on recevait il y a quelques semaines sur ce plateau Claude-François Junior, qui nous racontait que comme d'habitude, la chanson de son père, coécrite, composée, lui rapportait un chiffre mirobolant des années après la disparition de son père. Est-ce que
L'oiseau et l'enfant rapporte certainement, mais pas à moi, à l'auteur et au compositeur, moi je suis interprète.
Mais vous touchez quand même sur les droits d'interprète.
Je touche le droit d'interprète, voilà. Ouais. Mais pas comme eux, pas autant qu'eux.
Pas autant, oui, mais
c'est... Mais c'est normal, c'est eux qui l'ont écrite et composée. Mais voilà, enfin, L'oiseau et l'enfant sera toujours une chanson. Elle est encore chantée dans les écoles, elle est encore...
Elle est universelle, elle a traversé les époques.
C'est magique, hein.
Absolument. Merci beaucoup, Marie-Myriam.
Merci.
Je rappelle que vous avez remporté l'Eurovision pour la France la dernière fois, en 1977.
C'est peut-être temps qu'on... Le 7 mai 77.
Exactement. On n'était pas nés, mais on s'en souvient. Merci beaucoup, on le rappelle beaucoup.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte ! On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ?
Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi ?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.